RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
Radio Rythme Bleu, il est 17h45, Info Soir, c'est avec vous Léo Fichou.
Les discussions sur l'avenir institutionnel qui continuent cet après-midi au commissariat, deuxième journée, et toujours les délégations qui sont réunies autour du ministre des Outre-mer. La BCI touchée par des problèmes informatiques, certains virements et certains prélèvements aussi ont été comptabilisés deux fois. Au Mont d'Or, le maire Eddy Lecourieux met les choses au clair, la ville n'octroie pas de prime au blocage, réaction qui fait suite à des publications sur les réseaux sociaux. Une grève prévue lundi au collège de Thiot, grève des professeurs, du personnel et des parents d'élèves pour protester contre la fermeture de l'établissement. Et puis les sports, les quarts de finale de l'Open International de Squash, c'est ce soir à la salle Picou. Les favoris sont au rendez-vous. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Info Soir pour tout savoir de l'actualité en Calédonie et dans la région Pacifique. Et à la une de l'actualité, ces discussions sur l'avenir institutionnel qui se déroulent depuis hier, rien ne filtre. Des discussions à huis clos au commissariat entre le ministre des Outre-mer et les délégations calédoniennes. Des discussions constructives à en croire les uns et les autres, Elisabeth Noir.
Ils ont tous ce mot à la bouche, Emmanuel Valls aussi. Le ministre des Outre-mer a indiqué dans une déclaration informelle à la presse que les négociations sur l'avenir institutionnel se déroulaient dans un état d'esprit constructif. Et il a confirmé sa décision de prolonger son séjour jusqu'à samedi pour laisser une chance aux discussions d'aboutir. Le ministre, qui ne fixe toutefois pas de date butoir pour la conclusion d'un accord, il explique qu'il y a depuis longtemps différentes logiques à l'œuvre en Nouvelle-Calédonie qui font que tout s'est progressivement noué. Et par ces différentes logiques, Manuel Valls pense à celle de la décolonisation et à celle du vote démocratique des trois référendums. Des logiques qu'il faut rendre compatibles, dit-il, mais il y a aussi la problématique économique et sociale et les conséquences du 13 mai qui ont laissé des ruptures profondes. Dans ce contexte, Manuel Valls estime qu'il faut chercher à dénouer ces nœuds, pas à les trancher, sinon, dit-il, on prend le risque de la confrontation. Le ministre des Outre-mer, qui jusqu'à présent a réussi le pari de réunir toutes les délégations pour ses discussions sur l'avenir, et depuis hier, personne n'a quitté la table, personne n'a claqué la porte, ce qui apparaît aux yeux de chacun comme un second succès. C'est ce que relevait ce matin Jean-Pierre Diaoué du groupe UNI à l'ouverture de la deuxième journée de discussion.
Le fait qu'on est tous là, la deuxième journée de négociation, toujours autour de la table, tout le monde ensemble, c'est déjà un point positif. C'est-à-dire qu'il y a la volonté des uns et des autres que l'on arrive à un résultat, dans un délai raisonnable. Donc c'est déjà bien. Quand les trois partenaires ne sont pas alignés, ça mène à une impasse. L'exemple le plus récent, c'est le dégel du corps électoral. Ça n'a pas été... Les trois partenaires n'ont pas donné un avis favorable là-dessus. Donc ce qui est important, c'est que c'est toujours les trois partenaires, il faut que l'on arrive. Et c'est ça qui est recherché aujourd'hui, c'est que les trois partenaires arrivent à se mettre d'accord sur quelque chose.
Il faut trouver un chemin, il faut arriver à un résultat dans un délai raisonnable, le tout dans une ambiance constructive. C'est aussi ce que laissait entendre Philippe Dunoyer pour Calédonie Ensemble à la reprise des discussions cet après-midi.
Moi, ce que j'observe, c'est qu'on a toujours une volonté collective de réaffirmer, bien sûr, les positionnements de chacun, mais aussi de chercher des équilibres. Alors, ils sont longs, hein. Je rappelle que ça fait à peu près 5 ans qu'on ne s'est pas vu dans ce format-là pour évoquer tous les sujets qui sont des sujets importants. Donc, on avance, il faut nous donner le temps, et chacun prend le temps. Voilà, ça va prendre un petit peu de temps, il faut être patient, mais personne ne quitte la table, il n'y a pas de déclaration intempestive, pas de virulence, les choses sont dites avec conviction, mais ça reste très constructif. Je suis très satisfait de ce qui se passe jusqu'à présent et optimiste.
Voilà, peu de déclarations. Donc, on rappelle que les négociations ont été ouvertes hier matin par le ministre des Outre-mer et l'après-midi d'hier a été consacré à des discussions bilatérales avec chacune des délégations avant une brève séance plénière pour faire une synthèse des travaux. Les discussions ont repris ce matin. Elles se poursuivent encore à l'heure actuelle avec l'examen des 3 thèmes proposés par le ministre des Outre-mer et c'est lui qui conduit les travaux. Il y aura ensuite une petite pause dans la matinée de demain. Les discussions doivent reprendre demain après-midi.
Et rappelons que Manuel Valls a reporté son départ, initialement prévu demain soir, à samedi soir. Les discussions, effectivement, avec les partenaires politiques reprendront demain après-midi, se poursuivront samedi aussi, mais elles feront une pause, comme le disait Elisabeth Noir, demain matin. Le ministre des Outre-mer doit en effet rencontrer l'ambassadrice de France pour le Pacifique, Véronique Roger-Lacan, à 7h. Puis, à 9h, il se rendra à l'école de police avant de revenir au commissariat 10h45 pour un échange avec le monde du nickel. Il consacrera donc ensuite le reste de son temps jusqu'à son départ aux discussions avec les partenaires politiques calédoniens.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est donc l'heure d'opinion. Votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. On démarre avec notre question du jour. Selon vous, est-ce un bon signe que le ministre des Outre-mer ait décidé de prolonger son séjour en Nouvelle-Calédonie de 24 heures? Si vous pensez que c'est plutôt encourageant, vous tapez 1. Si vous pensez que c'est plutôt mauvais signe, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à la question d'hier maintenant, 86% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS pensent que l'Europe a raison de continuer à soutenir le président ukrainien Zelensky. Ils sont 14% à penser que l'Europe a tort de continuer à le soutenir. Notez maintenant ces rendez-vous d'antenne sur Radio Rythme Bleu. Demain midi, c'est Harold Martin qui sera l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence. En tant que signataire de l'accord de Nouméa, il sera interrogé sur ce qu'il attend des négociations sur l'avenir institutionnel qui ont débuté hier autour du ministre des Outre-mer. Il livrera également son analyse sur les premières déclarations faites sur le territoire par Manuel Valls. Harold Martin, invité de Transparence, est à suivre demain à partir de midi, juste après notre édition de la mi-journée. Et puis hier midi, le ministre des Outre-mer a déjeuné avec l'ensemble des maires calédoniens. Il leur a restitué les travaux menés avec les délégations politiques et ils ont évoqué également les difficultés financières et budgétaires de leur commune. Que faut-il retenir de cet échange? Quelles sont les garanties qu'ont obtenues les maires? Nous en parlerons demain avec Pascal Vittori, le maire de Boulou-Paris, qui est également le président de l'Association française des maires. Il sera notre invité du matin à 7h30. Rendre du pouvoir d'achat aux Calédoniens passe entre autres par un travail sur les prix et sur la structure des prix. Le membre du gouvernement en charge de l'économie, Christopher Gigès, a lancé une réflexion sur le sujet. Ce midi, dans les Jeudis de l'économie, plusieurs pistes ont été évoquées. Jean-François Baudin.
Oui, la structure des prix intègre, on le sait, de nombreux paramètres, coûts de production, intermédiaires, transport, fiscalité, etc., etc. Et pour étudier les prix et fixer une stratégie, il faudrait déjà utiliser les outils juridiques existants. C'est ce qu'a souligné le président de l'autorité de la concurrence, Stéphane Retailleau.
On a un comité de l'Observatoire des prix et des marges. C'est un comité qui existe et qui permettrait d'avoir un calcul des prix et des marges dans certains secteurs. On en prendrait deux. Le secteur agricole, prix des marges, le secteur produit, et les produits de grande consommation, distribution. Ça, c'est quelque chose qui pourrait être facilement activé avec une stratégie assez précise du gouvernement. On pourrait très bien voir un partenariat, je l'annonce à RRB, même partenariat DAE-ACNC. Il faut une stratégie derrière, une politique claire pour pouvoir intervenir sur certains secteurs, avoir une vision très très claire des prix et des marges sur certains produits, et pas de manière générale, sur certains produits identifiés ensemble, et puis derrière, on peut intervenir par un aspect réglementaire, ça peut être par un arrêté, sous avis de l'autorité de la concurrence. Il y a des moyens pour le faire. Et nous, on peut aussi intervenir par nous-mêmes. Donc ça, c'est une réponse stratégique.
Une réponse stratégique qui n'empêche pas de jouer aussi sur tous les autres leviers à disposition pour réduire les prix quand c'est possible.
On a une multitude, on le sait, une multitude de leviers sur lesquels on peut activer. Ça va du transport, en passant par la multitude des intermédiaires, sur la fiscalité, sur le droit à la concurrence, sur certains aspects du droit de la consommation, c'est multiple. Et c'est cette multitude de petites interventions qui permettra de faire baisser les prix. Il n'y a pas de remède miracle, mais c'est une multitude de petites interventions.
Mais ces leviers d'action sont des points sur lesquels travaille la DAE, nous a dit son directeur, John Tupit. C'est aussi le cas sur l'Observatoire des prix.
Il existe et il a vocation à être plus actif, effectivement. Il y a une composition qui associe les partenaires sociaux, le politique. Il y a un texte aujourd'hui qui vise à y ajouter comme membre l'autorité de la concurrence. Donc, effectivement, c'est un outil qui peut peut-être n'a pas été assez utilisé par le passé, mais il y a une volonté de l'exécutif en place de vraiment faire en sorte qu'il puisse produire ce qu'on attend de lui. Donc voilà ces fameuses études sur les marges. Après, c'est multifactoriel, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Le membre du gouvernement organise prochainement aussi un séminaire sur la fiscalité, puisqu'on sait que voilà, on évoquait la taxe sucre, la redevance copie privée, l'éco-participation, un certain nombre de redevances et de taxes qui sont intervenues. Ça, c'est des sujets qui ont vocation à voilà, la structure du prix, à avoir un impact inflationniste. Donc c'est une réflexion globale qui mêle tant la réflexion sur le niveau des salaires que la réflexion sur chaque composante de la structure du prix, des marges en passant par la fiscalité, en passant par le coût du travail.
Et un autre outil devrait aussi être bientôt disponible pour ce travail sur les prix, c'est la loi concurrence qui est en préparation, a rappelé Stéphane Retailleau.
Un, c'est de pouvoir, dans le cadre de ces positions dominantes dans des grandes entreprises, vérifier à travers la structure des prix, si ces prix ne sont pas tellement élevés qu'on pourrait les caractériser d'excessifs. C'est une jurisprudence qui existe en droit européen, qui a été mis en place par l'autorité de la concurrence française. Donc ça, ça va être un pouvoir qui va découler de l'adoption de cette loi de pays d'ici quelques mois auprès du Congrès. Et il y a un deuxième pouvoir qui est particulièrement important, c'est que à la fois le gouvernement, comme l'autorité de la concurrence, va pouvoir lutter contre les dysfonctionnements de marché. C'est-à-dire concrètement, lorsqu'on va avoir des prix particulièrement élevés, on va pouvoir intervenir, soit la DAE, soit l'autorité de la concurrence, pour dire « Ouh là là, là, votre taux de rentabilité, il est particulièrement élevé, c'est étonnant, on va le vérifier, et ensuite, en fonction de ça, on va dire à l'entreprise « Mais il nous semble que vos prix, là, sont particulièrement élevés. » L'entreprise a deux possibilités. Soit elle dit « Allez vous faire voir, excusez-moi », soit « Oui, vous avez raison, ouais. Je vais faire des engagements, il n'y a aucune contrainte. » Sauf que si nous, on va jusqu'au bout de la procédure, on le qualifie d'abus de position dominante. Et donc, ça aboutit à une sanction.
Voilà donc pour ces extraits des jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu, auxquels participaient également la directrice de l'ISE, Élise Desmazures, et le président de l'UTCFECGC, Christophe Coulson. Une émission à retrouver, comme chaque semaine, dans son intégralité audio et vidéo sur notre site internet.
Cette information maintenant, la BCI qui a été touchée par des problèmes informatiques. La Banque Calédonienne d'Investissement prévient sur ses réseaux sociaux qu'un incident technique a entraîné la double comptabilisation de certains virements, de certains prélèvements aussi. D'après les équipes de la BCI, seulement une faible volumétrie de clients est concernée, uniquement des personnes qui ont émis des virements ou des prélèvements depuis la métropole. Une régularisation est en cours. 17h57, on marque une première page de pause dans ce journal avant de parler de cette mise au point d'Eddie Le Courrieux, maire du Mont d'Or.
Savez-vous qu'un lave-vaisselle utilise de l'énergie surtout pour le chauffage de l'eau et peu pour le moteur de la pompe de vidange ? Les programmes à faible température comme Eco permettent de diminuer en moyenne de 5% la consommation d'électricité.
Retrouvez toutes les astuces Eco-Conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Chaque jour, les enfants ont la parole sur Radio Rythme Bleu.
Allons enfants !
Allons enfants, un rendez-vous instructif et rigolo à 10h50 et à 15h50.
Et ouais !
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La Cinef au soir, Léo Fichou.
La ville du Mont-d'Or qui n'octroie pas de prime au blocage. C'est la mise au point du maire de la commune, Eddie Le Courrieux, à la suite des publications sur Internet concernant l'octroi supposé récent d'une subvention spéciale pour la tribu de Saint-Louis. Le maire déplore que certains aient alimenté cette rumeur pour en faire une nouvelle polémique après les travaux municipaux réalisés à chaque entrée scolaire sur une petite portion de la route de Saint-Louis. En conséquence, Eddie Le Courrieux tient à apporter des précisions et surtout à rappeler les faits, Jean-François.
Oui, il affirme que ni l'État ni la ville du Mont-d'Or n'ont récemment acté l'octroi d'une subvention spéciale à la tribu de Saint-Louis. Le maire précise que le programme dont il est question fait partie du contrat d'agglomération signé entre l'État et la ville du Mont-d'Or pour la période 2017-2023 et qu'à la demande de l'État, un avenant supplémentaire a été signé fin 2023, c'est-à-dire avant les émeutes de mai 2024. Cet avenant, d'un montant de 5 millions, dont 2 millions pris en charge par la ville, a permis notamment, précise le maire, de financer des associations comme Active, qui aident les jeunes en leur offrant une première expérience professionnelle, ainsi que des opérations culturelles. Et il ajoute que toutes ces opérations avaient déjà été financées et ont été réalisées avant les émeutes du mois de mai 2024. Il tient également à rappeler que ce contrat d'agglomération signé entre l'État et la ville ne concernait pas uniquement la tribu de Saint-Louis, mais bien tous les quartiers du Mont d'Or. Et dit Le Courrieux précise aussi que grâce aux subventions perçues, la commune a pu financer des travaux et proposer une offre culturelle et sportive pour tous les Mont-Doriens dans le but d'améliorer leur cadre de vie et que sans l'aide financière de l'État, de nombreux investissements n'auraient pas pu voir le jour. Je comprends que certains Mont-Doriens puissent ne pas être d'accord avec ce choix, écrit le maire du Mont-d'Or. Beaucoup sont encore marqués par ce qu'ils ont vécu l'an dernier. Cependant, je ne peux laisser croire que la ville a engagé des dépenses supplémentaires alors même qu'elle n'en avait pas les moyens financiers et qu'une partie de nos concitoyens vivait une situation persistante de blocage et de violence.
On reste du côté du Mont d'Or. L'association citoyen mont-dorien organise son assemblée générale. C'est ce soir. Les sympathisants et les adhérents sont invités dans un quart d'heure à 18h15 à la salle des communautés du Vallon d'Or. L'occasion de dresser le bilan de l'année 2024, marqué par l'isolement de la partie sud de la commune, mais aussi d'évoquer les projets pour 2025. Les cours seront perturbés ce lundi au collège de Thuot. Dans un communiqué adressé au vice-recteur, le personnel du collège de la Colline indique faire grève. Il proteste contre l'annonce de la fermeture de l'établissement public pour 2026. Une annonce faite par la province sud, c'était en août dernier. Les personnes mobilisées pour cette grève estiment que dans le contexte économique que connaît la commune, seul le secteur de l'éducation pouvait apporter un sentiment de sécurité, voire de confiance pour l'avenir. Écoutez André Lanté, il est professeur d'histoire au collège public de Thuot.
Lundi, l'ensemble des personnels fera grève et les parents nous rejoindront devant l'établissement et nous descendrons tous ensemble à la mairie pour pouvoir discuter avec le maire. Alors bien sûr, on sait très bien que les collèges, c'est la province sud, mais la mairie a quand même son mot à dire puisque s'il n'y a plus de collège public, nous on pense que la vallée risque de dépérir et surtout nos élèves. Si on ferme, ils n'auront pas le choix autre que d'aller dans le privé. Et le collège privé n'est pas en capacité d'accueillir nos 75 élèves. Ou alors nos gamins doivent partir à la FOA, et la FOA, bon, ben, c'est une heure et demie de route.
Les professeurs, le personnel du collège et donc les parents d'élèves se retrouveront lundi matin. Le rendez-vous est donné dès 7h devant les grilles du collège de la Colline. On part du côté de Koumac maintenant avec cette cérémonie militaire qui a eu lieu ce matin. Les 67 volontaires incorporés il y a quelques semaines ont été présentés au drapeau du RSMA, le régiment du service militaire adapté. Cette cérémonie qui était présidée par le lieutenant-colonel Faldoni Révillon, le commandant du RSMANC, a notamment vu les jeunes volontaires défiler devant leur famille à l'issue de leur formation militaire. Ils vont désormais débuter leur formation professionnelle sur les sites de Koumac, Koné et Bouraille. Cette partie professionnelle durera entre 5 et 9 mois en fonction de la filière choisie par les volontaires. Une dépression tropicale modérée et un cyclone dans notre zone, deux phénomènes relativement loin du territoire et qui ne représentent pas de danger. Le premier a été dénommé Sérou et se situe à l'est du Vanuatu. Lionel Divoul, prévisionniste chez Météo France Nouvelle-Calédonie.
Sérou était positionné ce matin à 5h à environ 220 km dans le sud-est du Vanuatu, avec une pression au centre estimée à 992 hectopascales. Sérou évolue actuellement dans un environnement qui lui est défavorable et a été rétrogradé au rang de dépression tropicale modérée. Elle poursuit toujours une trajectoire sud à sud-est qui continue à l'éloigner de nos côtes, donc ne représente pas de danger.
Le deuxième phénomène est à l'ouest de la Grande Terre, un phénomène qui s'intensifie, mais qui lui non plus ne représente pas de danger pour la Nouvelle-Calédonie.
À la différence de Sérou, Alfred évolue dans un environnement qui est favorable et est devenu cyclone tropical depuis cette nuit, avec une pression au centre estimée à 971 hectopascales, qui génère des vents moyens à peu près 70 nœuds, soit à peu près 130 km/h près du centre. Ce matin, à 5h, Alfred était situé à peu près à 900 km dans le nord-ouest de Bélep et poursuit toujours une trajectoire sud à sud-est assez lentement, mais qui continue à l'éloigner de nos côtes également, donc ne représente pas, comme ces roues, de danger pour nous durant les 48 prochaines heures.
Et le temps risque donc d'être maussade ce week-end, notamment sur la moitié nord du territoire. Nous reviendrons sur les prévisions météo de la nuit prochaine et de demain matin à la fin de ce journal. 18h03, dernière pause avant de parler sport et un mot de squash sur le territoire.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
Les instants Magnum à 230 francs sont de retour jusqu'au 23 mars. C'est le moment ou jamais de craquer pour votre parfum préféré. Classique, amande, Star Chaser ou Euphoria Wonder. Votre Magnum préféré à 230 francs, c'est le moment de vous faire plaisir. Offre valable jusqu'au 23 mars 2025 sur les bâtonnets Magnum vendus à l'unité dans les points de vente participants à l'opération. Plus d'infos sur la page Facebook Magnum & Co.
RRB Recherche, un agent commercial patenté. Contactez-nous au 25 46 46 ou par mail à rrbpub@lagoon.nc. RRB, première radio d'information.
La suite du journal et c'est du sport, Léo Fichou.
Oui, du sport en Calédonie avec à suivre ce soir les quarts de finale de l'Open international de squash. Pas de grosse surprise puisque tous les favoris sont au rendez-vous à ce stade de la compétition. Les quatre meilleurs joueurs de Nouvelle-Calédonie vont affronter les quatre invités pensionnaires du circuit pro. Trois des meilleurs français, mais aussi la numéro 1 malaisienne. La présentation de ces quarts de finale avec Laurent Vendée. Il est l'organisateur du tournoi.
premier quart de finale qui va opposer Enora Villard, la joueuse de l'équipe de France, contre Nicolas Massenet, qui est le numéro 1 calédonien. Deuxième quart de finale va opposer Gaël Gosse, le numéro 2 calédonien, à Siva Sangari Subramaniam, la malaisienne, numéro 7 mondial. Après, le troisième quart de finale, il va opposer Nicolas Faure, numéro 3 calédonien, à Auguste Dussourd, membre de l'équipe de France, 33e joueur mondial. Et le dernier quart, c'est Baptiste Mazzotti, le favori du tournoi, qui est numéro 23 mondial, contre Laurent Guépy, numéro 4 calédonien. C'est ce qu'on espérait en quart de finale, hein, c'est les 4 meilleurs calédoniens contre les 4 invités.
Et le début de ces quarts de finale à 18h30 à la salle Picou. Les résultats vous seront annoncés demain dans nos éditions dès la matinale, donc de 6h30. Et pour terminer ce journal, on fait le point sur la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et la météo, Nicolas, c'est avec vous.
Alors, cette nuit, sur le sud-ouest, l'extrême sud, Lifou et Marais, les nuages resteront compacts et seront accompagnés de pluies faibles et intermittents. Ailleurs, le ciel sera plus dégagé, malgré des nuages élevés, parfois présents. Le vent de sud à sud-est de 10 à 15 nœuds mouillera progressivement entre 5 et 10 nœuds sur l'ouest. Sur la façade est et l'extrême nord, il sera variable et faible. Les températures minimales seront comprises entre 23 et 26 degrés. Demain matin, sur le sud-ouest, l'extrême sud et Marais, un ciel chargé donnera de faibles pluies au réveil, puis des éclaircies gagneront du terrain. Les nuages porteurs d'averses modérées seront plus persistants sur le nord-est et l'extrême nord. Ailleurs, le ciel sera parfois voilé. Le vent de sud à sud-est s'établira entre 10 et 15 nœuds, mais restera plus faible sur la côte est. Sur l'extrême nord, il s'orientera au nord-est à 10 nœuds, Léo.
Merci beaucoup, Nicolas, et merci à vous de nous être fidèles.